Vous allez bien? Bon, ça fait plaisir parce que ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, la conclusion de Paul, qui est une bonne conclusion parce qu'elle parle que de nous. Donc ce matin, on va partager ensemble. J'espère que on va pas être interactif, mais en tout cas, j'espère que vous allez autant apprécier le passage que j'ai pu l'apprécier en le préparant. Et avant de commencer le message, avant de commencer le partage ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, puisque nous allons parler des armes du chrétien. Seigneur, tu vois combien nous sommes faibles sans toi, tu vois combien tu as tout fait dans notre vie. Tu as tout fait pour moi, Seigneur, tu as tout fait pour nous. On vient de se rappeler de ton sacrifice à la croix. Pendant ce week-end de Pâques aussi, particulièrement, on veut se rappeler que tu es vraiment ressuscité, que tu règnes dans mon cœur, que tu règnes dans notre cœur, Seigneur, et que tu ne nous as pas laissés tout seuls, que tu ne nous as pas laissés sans armes. Merci encore pour ce passage qu'on va lire ensemble ce matin. Amen. Je vais demander à Timothée, si tu veux bien te lever, et lire Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Merci. Merci Timothée. On se rappelle le contexte ensemble. Vous savez où est Paul? Il est en prison. Il est en train d'écrire cette lettre. Tous les premiers chapitres parlent de l'Église de façon générale. Vous en rappelez normalement bien, puisqu'il y a quelques semaines, quelqu'un est venu faire un séminaire ici et il a commencé les premiers chapitres. Donc Paul s'adresse aux Églises de façon générale et là il finit d'une façon un peu particulière. Et quand j'ai préparé ce message, je pense qu'à l'école du dimanche, on a tous entendu parler du casque, du bouclier, de l'épée, etc. Mais avant de commencer l'étude, je me suis posé une question. Et je pense qu'il faut qu'on se la pose, parce que sinon, on va parler d'armes, on va imaginer un soldat, mais est-ce que ça va vraiment nous parler? Est-ce que ça va vraiment nous parler dans notre cœur? Puisque si Paul a écrit ça à toutes les églises de façon générale, et qu'il termine en disant « attention », il y a un combat à mener, mais vous, chrétiens, Dieu vous prépare, il vous donne des armes pour ce combat. Un combat spirituel, d'après ce que nous dit Paul, pas un combat de chair, on ne va pas monter au front à se trancher les têtes ou je ne sais pas quoi. C'est un combat spirituel, quelque chose qui se déroule chaque jour dans notre vie. Alors, la deuxième question, est-ce qu'on est vraiment conscient que chaque jour, on a ce combat à mener? Parce que sinon, on va avoir deux façons de lire le texte ensemble ce matin. La première façon, c'est qu'on va avoir une description d'un bouclier, d'un casque, de la cuirasse, de la ceinture. Et puis ça va s'arrêter là, à midi, on va aller fêter la Pâque. Et puis lundi, c'est férié, donc on ne va pas travailler. Et puis mardi, on va reprendre notre vie. Et puis, on aura oublié le casque dans 3 jours. Dans une semaine, l'épée, on ne saura plus. Et le bouclier, ben, je ne sais pas, peut-être dans 2 semaines. Moi, le premier, en lisant ce passage, je me suis rappelé de mon ami Raph la semaine dernière qui nous a parlé des custodias. Je me suis dit, c'est bon, là, l'église, ils vont être formatés, on ne fait que parler de militaires, ils vont être au taquet, l'armée romaine, ils vont savoir comment ça fonctionne à fond. Mais quand même, si Paul y prend le temps de le dire, si Paul y prend le temps d'énumérer, et on va voir ensemble toutes ces choses, s'il prend le temps de le faire, c'est qu'il y a une raison. De quel combat il parle ? Est-ce qu'il parle du combat de Christ, qu'il a mené sur la croix ? Non. Il parle d'un combat de tous les jours. Pourquoi ? Parce que, étant une nouvelle créature, avec cette nouvelle identité que nous avons, Satan, il sait qu'il est vaincu, puisque nous sommes régénérés. Il le sait. Par contre, lui, il va tout faire pour nous déstabiliser. Il va tout faire pour vouloir nous tailler. Il sait qu'il ne peut pas nous avoir, parce qu'on a été, on est en Christ. Mais par contre, il va se déchaîner sur nous. Je pense qu'on en est tous conscients. Paul l'était, puisqu'il nous dit de tenir ferme, il nous dit de résister. Et plus loin encore, il nous dit, voici les armes que Dieu met à notre disposition. Voilà, un petit modèle, comme ça vous avez l'image. Les armes que Dieu met à notre disposition. On va commencer. Les trois premières armes, la ceinture, la cuirasse et les souliers. Les trois premières armes, c'est ce qui touche plutôt à notre âme spirituelle. C'est ce qui touche à notre être intérieur. La première, la ceinture. On applique la parole comme ceinture à nos reins. Les reins dans la parole, 1 Pierre 1,13 nous le dit, c'est le lieu, nous on parle de cœur, dans notre, on va dire en France, dans l'Occident on parle de cœur, pour dire que c'est là où on a notre trésor, etc. Mais eux à l'époque c'était les reins. Les reins parce que c'est là, c'est ce qui maintient. Et Paul nous dit la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, on va prendre comme ceinture, on va prendre comme maintien, comme soutien, ce qui va nous tenir droit, la vérité, la parole de Dieu, la vérité. Plus encore, cette vérité, elle va nous préparer. Pourquoi ? Parce que cette vérité, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais en étude dans le laboratoire, et vous savez, c'est comme quand vous avez un témoin. On avait des expériences à faire et à chaque fois, on devait se référer à ce témoin pour savoir si on était bon ou mauvais, si on avait bien fait ou mal fait. Et bien, la ceinture de la vérité, c'est un peu la même chose. Si vous la mettez bien, correctement, à chaque fois que vous allez penser quelque chose, dire quelque chose, vivre quelque chose dans votre vie, forcément, si ça vous fait mal parce que vous, vous seriez penché pour faire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Par contre, si vous êtes ferme, si vous avez la vérité qui est bien accrochée à vous, et que ce que vous décidez vous fait pas mal, c'est que vous êtes dans la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Deuxième point, être saint de la vérité, c'est la clé, on verra plus tard pourquoi, mais c'est la clé un petit peu de la réussite sur le départ, parce que si on ne commence pas par mettre la ceinture, on va avoir du mal à porter la cuirasse, parce que la ceinture, elle aide à porter la cuirasse. Si on ne met pas la ceinture, je vais avoir du mal à mettre l'épée, qui est la parole de Dieu. On verra ça plus tard. Donc la ceinture, c'est un élément clé. On part de là, en tant que chrétien. Quand on accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait, c'est quoi ? Je reconnais mes torts, je reconnais mes fautes, je reconnais qu'il est tout-puissant et je veux le suivre. On se confronte à la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut qu'on soit attaché. Ça veut dire que cette vérité, elle représente Christ dans ma vie et elle est le point central. Au niveau des reins, c'est le point central. Mais vraiment, dans ma vie, que celui sur qui je m'appuie, celui qui dirige ma vie, c'est Christ. C'est cette ceinture de vérité. Le deuxième élément, c'est la cuirasse. Toujours par rapport à nous, l'âme spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la cuirasse ? Paul en parle beaucoup, mais la cuirasse de la justice, là on ne parle pas de la justice immuable de Dieu. On ne parle pas de Dieu juste. On ne parle pas de ce que Dieu a fait à la croix. On parle plutôt de la justice que nous on endosse quand on accepte Jésus-Christ. Parce que quand j'accepte Jésus-Christ, je suis lavé, purifié, sanctifié, justifié, Et cette cuirasse que je prends, elle me justifie devant les hommes, devant Dieu et devant le diable. Je suis justifié. Il peut essayer de m'attaquer, mais il ne peut rien faire parce que je suis justifié par le sang de Christ. Bien plus encore, ce témoignage que nous rendons aux autres en portant cette cuirasse, vous imaginez en haut à droite mon petit nom, Sébastien, j'ai ma cuirasse, la cuirasse qui est faite par Christ. Rien ne peut m'arriver. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis plus pécheur, vous le savez. Donc cette cuirasse, ce n'est pas cette cuirasse qui fait de moi quelqu'un de saint. Ce n'est pas ce que je porte qui fait de moi quelqu'un de saint. C'est ce que je vis avec Dieu. Elle me protège, la cuirasse de justice, uniquement si je sais revenir à la croix. Si constamment, quand je pêche, quand je tombe devant mes amis, devant ma famille, devant ceux qui ne me connaissent pas, je sais revenir à la croix. Là, elle est efficace. Pourquoi ? Parce que si je ne sais pas revenir à la croix, si je pêche, j'ai péché, personne ne m'a vu, je vais essayer de passer le péché un petit peu tranquille comme ça, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? Vous avez déjà vécu ça ? Moi, je le vis souvent, ça. On a un péché, mais bon, personne ne l'a vu, personne ne le sait. Pff, Seigneur, bon, de toute façon, je suis pas parfait. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? C'est quoi la petite voix qui vient après ? Qui dit, ah, t'as vu, t'as péché, c'est pas bien. T'es pas digne de Dieu, t'es pas digne de Christ. Pff, ça sert à rien de lire ta Bible, de toute façon, t'as péché. Cette petite voix, hein, cette petite voix de notre ancienne nature qui vient nous titiller et qui peu à peu craquelle cette cuirasse, qui peu à peu fait que cette cuirasse, elle est moins belle, elle est moins propre. Parce qu'on oublie quelque chose, c'est que cette cuirasse, elle ne vient pas de nous. Nous, on la porte, mais elle ne vient pas de nous. Il faut qu'on ait une bonne conscience pour porter cette cuirasse. Paul nous dit, dans Actes 24:16, « Je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire qu'avoir une bonne conscience, c'est dire « Christ, il est venu une fois pour toutes à la croix. Et à chaque fois, je ramène mes péchés. À chaque fois, je me remets, je me replace devant la croix, sous son salut. » Actes 23:1, « Je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » En cherchant un petit peu dans le Nouveau Testament, je suis tombé sur un autre verset qui parlait d'une cuirasse. Vous voyez duquel je parle ? Là, on parle de justice et une autre cuirasse qui nous parle d'amour et de foi. Thessaloniciens 5:8, « Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. » En fait, cette cuirasse de justice pratique que je vis tous les jours, c'est en fait vivre tous les jours la foi et l'amour. Pratiquer la justice devient donc à pratiquer l'amour. Quelle que soit ma position du jour, si ce matin avant de venir j'ai péché, c'est pas ça qui fait de moi quelqu'un qui est parfait aux yeux de Dieu. Ce qui fait quelqu'un de parfait aux yeux de Dieu, c'est que j'ai accepté Christ et que c'est son sang à lui qui me lave. C'est cette cuirasse qui me donne, qui me permet de montrer aux autres que j'appartiens à Christ. On témoigne de la justice de Dieu dans ma vie, je témoigne activement avec cette cuirasse. Il guide mes pas, il me protège. Et là, on arrive sur le dernier point qui nous concerne, nous, personnellement, avec Dieu, toujours dans l'âme spirituelle. Cette arme, la chaussure, ayant chaussé vos pieds à la préparation de l'évangile de paix. On parle de quoi ? C'est une arme. Parce qu'elle nous permet de bouger. Parce que si c'est une bonne chaussure, si on est bien préparé à l'évangile, on va pouvoir y aller. On va pouvoir avoir du zèle pour l'évangile. Mais si je ne suis pas bien dans mes baskets, l'expression est bonne, je ne vais pas pouvoir y aller. Si je ne suis pas bien avec Dieu, si je ne suis pas en paix avec l'évangile qui m'a mis dans le cœur, si je n'ai pas bien compris le fait que je suis pardonné, le fait que je peux tout lui donner et que c'est lui qui dirige ma vie, revenez en arrière. Si je n'ai pas compris le rôle de la ceinture, si je n'ai pas compris le rôle de la cuirasse, si je n'ai pas compris ça, les chaussures ne vont pas me servir à grand-chose. Par contre, si j'ai compris que je dois être dans la vérité chaque instant de ma vie, devant la parole de Dieu, que je dois mettre Christ au centre de ma vie, que je dois utiliser cette cuirasse pour montrer aux autres que je suis sous couvert de la justice de Dieu, alors en enfilant ces chaussures, je n'ai plus qu'une chose à faire. aller annoncer l'évangile que j'ai dans le cœur, aller porter, avancer, faire progresser mon église, faire progresser ma famille, aller vers mes amis qui ne connaissent pas Dieu. Il faut rester donc ferme, avec une bonne attitude. Vous avez vu le texte ? Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Dans ma version de la Bible, j'ai « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Les bonnes dispositions. Utilisez ces chaussures, allez de l'avant avec Dieu, parlez aux autres. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Si vous n'êtes pas bien disposé dans votre cœur, comment vous voulez annoncer aux autres que vous croyez en Christ, qu'il a sauvé votre cœur, qu'il a sauvé votre vie? Si vous n'êtes pas en phase avec lui, si ça fait 6 mois que vous n'avez pas ouvert votre Bible, 1 an que vous n'avez pas prié, que vous savez venir de temps en temps à l'église, comment vous pouvez parler de Christ? C'est pas possible. C'est un exemple, bien évidemment. Il faut être en règle entre notre âme et Christ pour pouvoir porter l'évangile, pour pouvoir amener l'évangile. Romains, j'ai mis ce passage parce que je sais qu'il y a 2 personnes dans notre assemblée qui aiment ce verset particulièrement. C'est Raphaël et Reynald. Romains 10, 15. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On a la ceinture de vérité, on a la cuirasse, protégée par la cuirasse, et on va avec Christ vers les autres, grâce à ses chaussures. On ne va pas craindre de proclamer sa paix. On ne va pas craindre d'annoncer l'évangile. À ce stade-là, on est au milieu des armes. À ce stade-là, est-ce que vous pensez que Satan il va vouloir nous laisser tranquilles? Vous avez la vérité ancrée en vous, au plus profond de vous. Vous avez une cuirasse, vous savez revenir à la croix. Christ il est au centre de votre vie. Vous avez de bonnes chaussures, vous savez avancer, vous savez aller à l'avant pour parler de Christ. Vous avez le zèle pour le faire. Vous croyez que Satan va nous laisser tranquilles? Il faut savoir qu'à ce moment-là, on va forcément rentrer en conflit avec Satan. Forcément, il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il sait qu'on appartient à Christ, mais il sait par contre qu'il peut nous freiner parce qu'on n'est que des hommes. Il faut se rappeler simplement que sur la croix, encore une fois, Christ a vaincu Satan. Et bien s'en souvenir pour pouvoir avancer. Petit clin d'œil à mon ami Sam. Les armes du chrétien qui ont trait au maintien de la confiance en Dieu. J'ai fait le travail sur moi-même. Je suis prêt. Je suis au taquet. Je peux y aller. Mais Dieu me dit, attends, il manque encore 2-3 choses. 2 armes en particulier. La première, le bouclier de la foi. Dans le passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit, le bouclier, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Par-dessus tout, c'est un bouclier qui est complet. Il est surtout énorme. Il nous protège. Il ne faut pas avoir peur de le mettre en avant pour se protéger. On est sauvé, justifié. C'est cette foi qui fait ce bouclier. C'est l'arme qui a le plus de valeur quelque part. Puisque rappelez-vous même dans l'ancien temps, Abraham, c'est la foi qui l'a sauvé. Tout à l'heure, c'est Michel qui nous a lu dans Éphésiens aussi que c'était par grâce qu'on était sauvé. Et c'est parce qu'on a eu foi en ça qu'on a le salut. Si on se rappelle bien de la chute, qu'est-ce qui a perdu Adam et Ève? C'est que cette foi qu'ils avaient en Dieu, à un moment donné, au lieu de placer leur confiance uniquement en Dieu, ils ont eu un doute. Et ils se sont dit, et si on avait confiance au serpent, ce qu'il est en train de nous dire, à nous-mêmes, finalement, on est là, on est un peu des dieux, on dirige tout, on est dans un super jardin, on va aller manger du fruit, on verra bien ce qui va se passer. Ils ont perdu, ils ont dévié la confiance qu'ils avaient en Dieu. Ils se sont dit, pourquoi pas nous? Et quelque part, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Je suis le premier à le faire. Est-ce qu'on ne se dit pas, oui, c'est vrai, je suis en train de vivre ça, 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 mais bon, je suis costaud. En plus, c'est vrai, je suis costaud. Je vais pouvoir maintenir le truc, je vais pouvoir le faire moi. quand même, on ne va pas déranger Dieu à chaque fois pour un petit truc. Ça, c'est trompeur. Ça, c'est Satan qui nous met ça dans la tête. C'est notre ancienne nature qui nous travaille. T'es quelqu'un. T'as quelque chose dans les mains. Tu peux faire quelque chose. Non. On se rappelle. On se rappelle de la croix. On se rappelle qu'on appartient à Christ. Qu'on peut avancer seulement avec Christ. Qu'on peut avancer seulement avec Christ. Et qu'il faut lui faire confiance à lui et lui seul. Et j'ai mis un troisième point, qui n'est pas très développé ici, mais qui me semblait important. C'est que cette foi qu'on a en Dieu, si on ne l'entretient pas, si on ne lit pas notre Bible le plus souvent possible, si on ne prie pas devant Dieu, si on ne dit pas à notre Seigneur les fautes qu'on commet pour se remettre devant lui, pour se mettre en règle devant lui, si on ne fait pas toutes ces choses régulièrement, si on ne nourrit pas notre foi, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, votre gros bouclier de 20 cm d'épée, il va basculer à 10, puis à 5, puis il va diminuer en largeur, en taille, et puis à un moment donné, quand Satan va arriver, ben, le bouclier ne servira plus à grand-chose. C'est important que notre foi elle soit sans cesse mise à l'épreuve à travers la parole de Dieu. Que la Bible nous donne à manger véritablement tous les jours, qu'elle nourrisse cette envie qu'on a de servir Dieu, cette envie qu'on a d'être chrétien, d'être disciple de Christ. Vous imaginez, encore une fois, je donne un exemple dans le même style, vous avez ouvert votre Bible, allez, trois fois ce dernier mois, prié, ça vous est compliqué, vous avez un péché que vous n'arrivez pas trop à aborder avec le Seigneur, vous êtes coussi coussa, l'église ça vous plaît, mais bon. Et à ce moment-là, Satan, il arrive, il vous lance une épreuve. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tenir ferme ? Vous allez commencer à chanceler ? Ça ne va pas être terrible ? Et puis, allez voir un chrétien ? Allez voir des amis chrétiens ? Oui, mais je ne suis pas au clair avec Dieu, comment on fait ? À l'inverse, si vous êtes au taquet, si la Bible, elle fait partie de votre quotidien, si la prière avec d'autres, la prière avec... votre femme, votre mari, vos frères, vos sœurs, c'est quelque chose d'essentiel dans votre vie. Si vous avancez avec Dieu et qu'il vous arrive une épreuve, vous allez faire quoi ? Quel est votre premier réflexe ? Quel va être votre premier réflexe ? Vous dire « Oh, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. » Non. Vous allez vous mettre à genoux. Vous allez vous tourner vers la croix. Vous allez brandir ce bouclier de la foi. Et je vais même aller plus loin. Parce qu'on sait, vous comme moi, que quand notre confiance en nous, elle diminue, c'est aussi difficile d'avoir confiance en Dieu. Parce que justement, on se trompe souvent. On a souvent tendance à dire, c'est d'abord moi, puis vraiment, quand j'y arrive pas, j'irai voir Dieu. Alors que ce que nous explique ce passage, c'est qu'au contraire, c'est d'abord Dieu, et lui fera le reste. Même pas toi, il n'y a plus toi. C'est que la confiance en Dieu. Et quand on est un petit peu comme ça entre deux, ce qui est bon de faire, c'est de jeter notre orgueil par-dessus l'épaule et d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur et dire voilà, je suis pas bien, peut-être on rentre pas dans les détails, mais viens on prie ensemble, viens on avance ensemble. Et vous savez que dans le groupe de jeunes, on fait ce qu'on appelle des binômes, on fait même des trinômes et on prie les uns pour les autres. Et même dans une épreuve, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Je n'ai pas besoin de m'expliquer en long, en large, en travers. Mais de prier avec mes frères. De prier avec des sœurs. De se remettre devant Dieu, avec la parole de Dieu. C'est ça qui va faire que votre bouclier va vraiment être efficace. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. Deuxième arme qui a toujours rapport avec la confiance en Dieu, qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse être inébranlable. C'est le casque du salut. Si le bouclier de la foi est la confiance de ce que Dieu est, le casque du salut, lui, est la confiance en ce que Dieu a fait pour nous. Dans Ésaïe 59, 17, on voit que Christ met un casque de salut sur sa tête pour remporter la victoire finale. Ce casque représente la pleine confiance du fait qu'on soit délivré, du fait que Christ, il est venu sur cette terre, c'est vrai, il est mort sur cette croix, c'est vrai, Il est ressuscité 3 jours après. C'est vrai. Et je l'ai accepté comme sauveur et maître. C'est vrai. Et c'est ce casque qui dit tout ça. En gros, pour faire une petite boutade, c'est pas écrit la poste sur votre front. C'est écrit sauvé par Christ. Et c'est uniquement grâce à ce casque. C'est quand vous revêtez ce casque, vous savez, les gens sont au courant, ceux qui vous entourent le voient, vous appartenez à Christ. Hier soir, Raphaël nous a fait une étude donc, sur l'Apocalypse, et on a parlé de ça, puisque dans l'Apocalypse, c'est marqué que ceux qui appartiennent à Satan seront marqués du signe sur le front, et ceux qui appartiennent à Dieu seront aussi marqués sur le front. Pourquoi ? Parce que le front, c'est ce qu'on voit en premier. Parce que c'est ça, ce que voient les gens. C'est notre front. À qui on appartient ? T'appartiens à qui, toi ?
Ah, t'as qu'à regarder sur mon front, c'est écrit.
Je mets le casque du salut, le casque de l'espérance, nous dit Thessaloniciens 5:8. Le casque est l'espérance du salut, la certitude d'une délivrance qui est encore à venir. On lit aussi dans Psaume 140, verset 7, « L'Éternel, le Seigneur, est la force de mon salut. Tu as couvert ma tête au jour des armes. » C'est Christ qui est la force de ce casque, de ce salut. C'est lui, pas nous. Vous avez remarqué que toutes les armes qu'on vient d'énumérer, il en manque encore deux, toutes les armes qu'on a énumérées, c'est pas nous. Nous, on les met sur nous, on va les utiliser, on va les faire progresser dans nos vies, on va les nourrir, mais c'est pas nous. C'est Dieu qui nous donne tout ça. On arrive à l'arme préférée des hommes, parce que c'est celle qui attaque, c'est celle qui envoie du lourd. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la ceinture ? L'image, ayez l'image d'un combattant. Il s'est levé à la bourre, il a fait la fête la veille. Bon, il faut aller à la guerre, je suis à la guerre, de toute façon j'y vais. Et il part sans la ceinture. Déjà, dès qu'il fait les 10-15 premières bornes pour aller jusqu'au champ de bataille, il commence à se dire j'aurais mieux fait de la prendre parce que ça maintient bien les reins avec le poids de la cuirasse. Et puis, c'est le seul idiot qui a son épée dans la main. Et il se porte ses 15 kilos au bout de bras comme ça. En se disant, quand je vais combattre pendant des heures et des heures, ben, j'aurai déjà mal au bras parce que je l'ai porté jusqu'au champ de bataille. C'est un petit peu pareil pour nous. Parce que nous qui sommes chrétiens, avec ces armes, c'est qui nous a formés pour porter ces armes ? C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous enseigne ce matin, qui nous dit, en tant que chrétien, prenez des armes parce qu'il y a un combat et vous devez faire ce combat. Prenez des armes. Donc, la parole nous forme. Elle nous dit qu'il faut résister à l'ennemi. Elle nous dit qu'il faut prendre la parole de Dieu, ses versets, et les utiliser. Maintenant, si vous n'avez pas la ceinture, vous n'êtes pas vraiment au clair avec Dieu. La vérité, bon, c'est un peu comme vous avez envie. Vous arrivez vers un ami, et vous dites, mais tu sais, Dieu, il a dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. Balancez un verset comme ça. Vous utilisez l'épée, comme ça. Vous essayez de le trancher avec un verset. Et que le gars vous regarde et vous dit, mais tu le vis pas, toi. Tu les aimes pas, les autres. Tu t'aimes que toi-même. En gros, t'es pas dans la vérité. Tu n'es pas à ta place. L'identité que tu me proposes, elle n'est pas vraie. Cette épée fonctionne que si vous avez vécu ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous savez vous l'approprier. Si vous savez l'utiliser parce que vous l'avez dans le cœur. Elle est utile. Et elle est redoutable que si vous savez l'utiliser, que si vous savez dire « j'ai vécu ça, dans ma vie, Dieu il m'a travaillé sur ce point, et donc je peux utiliser ce verset, je peux te dire ça, je peux t'apporter ça, parce que je l'ai vécu. » Dans la suite du raisonnement, c'est parce que effectivement, qui travaille en nous ? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, plus notre volonté à nous de servir le Christ, plus cette parole vivante que Dieu nous laisse, c'est ça qui va aller droit dans l'âme. On dit souvent que quand on témoigne, ce n'est pas nous qui faisons le travail. Nous, on ne fait que apporter des choses. On est l'outil pour Dieu. Mais ce qui va aller transpercer le cœur de l'autre, ce qui va aller vraiment titiller son âme pour lui dire « Tu as vu qui je suis ? Tourne-toi vers moi, accepte-moi dans ta vie. » Qui va faire ça dans le cœur de l'autre ? C'est le Saint-Esprit. Et encore une fois, il faut être bien disposé, il faut avoir la vérité, la cuirasse pour avancer. Il y a l'Esprit seul, le Saint-Esprit seul peut trancher dans le cœur de l'homme. Connaître, interpréter et vivre le message de Dieu revient à bien aiguiser son épée. On doit apprendre à la manier. On doit apprendre, grâce au Saint-Esprit, à diriger cette épée pour qu'elle soit utile. La prochaine arme que Dieu nous permet d'avoir, c'est une arme qui est particulière. On n'est plus dans ce qui nous concerne nous personnellement, on n'est plus dans la confiance en Dieu, donc nous avec Dieu, on n'est plus dans l'attaque. C'est une arme, la prière, qui relie toutes les autres, parce que c'est le liant, quelque part, entre nous et Dieu. C'est le liant, quand je veux parler à Dieu, je veux communiquer avec Dieu, je veux apprendre de Dieu. C'est ça, le liant, la prière. C'est l'expression de la dépendance. C'est l'expression, comme disait Daniel 9, verset 3, « Et je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. » Pour le rechercher par la prière. Encore une action. C'est une âme qui est à notre disposition, mais il faut aller la chercher. Il faut l'utiliser. Il faut avancer. Expression de la dépendance, de nos supplications. Mais là particulièrement, il y a quelque chose d'autre. Parce que ce n'est pas Paul qui personnellement va donner des supplications à Dieu, mais c'est Paul qui parle à l'ensemble des églises, qui va dire pour ce combat qu'on a à mener, il faut qu'on prie les uns pour les autres. On s'arme, mais une fois qu'on est armé, il faut prier les uns pour les autres, pour qu'on soit ensemble, unis, et qu'on soit utile, qu'on puisse vraiment combattre le bon combat, qu'on puisse vraiment avancer. Il nous dit donc qu'il faut prier pour les saints, pour tous les saints. Et quelque part, il nous adresse ce message à nous aussi. On sait ici tous qu'on a ce combat à mener. Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'on pratique la prière les uns pour les autres, pour ce combat-là? Est-ce que cette armure que Dieu nous met à disposition, on l'utilise chaque jour? Est-ce qu'on a conscience de tout ce que Dieu met à notre disposition? Je voulais revenir sur ce que disait Paul au départ, comme conclusion. Il nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Puisqu'en rappel, toutes ces armes, c'est Dieu qui nous les donne. C'est Dieu lui-même d'ailleurs. Le salut, c'est lui. La vérité, c'est lui. La justice, c'est lui. Le bouclier de la foi, c'est lui. L'épée, c'est lui. Les chaussures, c'est lui. Tout est Dieu. C'est seulement au nom et avec la force de celui qui a vaincu l'ennemi que nous pouvons engager le combat. En outre, il faut impérativement avoir revêtu l'armure complète de Dieu. Aucune pièce ne doit manquer. Et je voulais vous laisser avec ce passage, vous demander de réfléchir pendant une petite minute à tout ce qu'on vient de lire, et chez vous, de reprendre ce passage et de vous approprier chaque arme. Parce que on a parlé d'armes, mais vous avez bien compris que c'est notre vie chrétienne. C'est ce qu'on doit vivre tous les jours avec Dieu, avec Christ. Qu'on puisse passer un moment de silence justement pour se rendre compte de ce que Dieu nous donne et de ce qu'il nous laisse comme arme pour pouvoir avancer avec lui.